Chapitre 115. Clôture. Yonalina, Axel Rissen, Nico Kapanen et le garde du corps aux cheveux gris ont été transportés en hélicoptère jusqu'à l'hôpital chirurgical Hux de Helsinki. À leur arrivée, Axel avait demandé à Yona pourquoi il ne s'était pas éloigné lorsque Raphaël avait ramassé le pistolet. « Vous ne m'avez pas entendu crier ?» Yona l'avait regardé dans les yeux et lui avait expliqué qu'il avait déjà vu les tireurs embusqués sur le bateau et avait cru qu'ils déchargeraient leurs armes avant que Raphaël n'ait le temps de tirer. « Mais ça n'a pas été le cas », avait dit Axel. « On ne peut pas toujours avoir raison », avait répondu Yona avec un sourire. Nico était conscient lorsque Yona et Axel étaient entrés dans sa chambre pour lui dire au revoir. Il avait plaisanté et dit qu'il se sentait comme Vanalla dans Soldat inconnu. « Vive la Suède !» leur avait-il dit. « Mais la petite Finlande est coriace et mérite une bonne seconde place !» Les blessures de Nico étaient très graves, mais son pronostic vital n'était plus engagé. Il devait subir un certain nombre d'opérations dans les prochains jours avant de rentrer chez ses parents en fauteuil roulant 2 semaines plus tard. Il lui faudrait attendre presque 1 an avant de pouvoir rejouer au hockey avec sa sœur. Le garde du corps de Raphaël Guidi a été arrêté et conduit à la prison de Vanda dans l'attente de son procès. Yonalina et Axel Rissen étaient rentrés à Stockholm. Le grand cargo MS Icelus n'a jamais quitté le port de Göteborg. Les munitions ont été déchargées et la cargaison transférée à l'entrepôt de la douane. Jens Svanehjelm avait pris en charge l'interminable processus juridique, mais en dehors du garde du corps de Raphaël Guidi, tous les coupables étaient déjà morts. Il a été impossible de prouver que d'autres personnes, à l'exception de Pontus Salman de Silentia Defense AB, avaient été impliquées dans une activité criminelle. Le seul à avoir commis une quelconque infraction était l'ancien directeur général, Karl Palmkrona. Des soupçons de corruption et d'infraction à la législation sur les armes avaient pesé sur Jürgen Grünlicht, mais il n'avait finalement pas été inculpé. Les enquêteurs avaient conclu que l'Export Control Rådet, la commission parlementaire en charge du contrôle de l'export, et tous les politiciens suédois qui avaient été impliqués dans l'exportation avaient été trompés et avaient agi en toute bonne foi. Les rapports des enquêtes pour corruption sur 2 politiciens kényans ont été remis à Roland Lidonde, général anticorruption et secrétaire de Governance and Ethics. Il en ressortira sans doute que les politiciens kényans n'avaient rien à se reprocher. L'armateur Intersafe Shipping ignorait que les munitions allaient être acheminées depuis le port de Mombasa jusqu'au Sud-Soudan. Le transporteur kényan Transcontinent ignorait que les marchandises qu'il s'était engagé à acheminer jusqu'au Soudan étaient des munitions. Tous avaient été dupés. Axel Rissen. Axel Rissen sent les points de suture se tendre sur son cou lorsqu'il sort du taxi et marche jusque chez lui. Le bitume est pâle, presque blanc dans la lumière du soleil. La porte d'entrée s'ouvre au moment où il pose la main sur la grille. Robert l'attendait, posté à la fenêtre. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demande Robert en secouant la tête. « J'ai parlé avec Yonalina, et il m'a un peu raconté. C'est complètement hallucinant. Tu sais bien que ton grand frère est un dur à cuire, » dit Axel en souriant. Ils s'étreignent et rejoignent la maison. « Nous avons mis la table dans le jardin, » dit Robert. « Comment va le cœur ? Il bat encore ?» demande Axel en suivant son frère. « Il se trouve que j'avais rendez-vous à l'hôpital la semaine prochaine, » répond Robert. « Je ne savais pas, » dit Axel en sentant un frisson lui parcourir la nuque. « C'était pour qu'on me mette un pacemaker. Je ne crois pas t'en avoir parlé. »«
Une opération ?»«
Oui, elle a été annulée depuis. »
Axel regarde son frère et sent quelque chose se tordre au plus profond de lui. Raphaël avait déjà programmé l'opération de Robert. Il était censé mourir sur la table d'opération et lui donner son foie. Axel est obligé de s'arrêter un moment dans le vestibule pour se calmer avant de continuer. Son visage le brûle et il sent sa gorge se serrer.
« Tu viens ?»
demande Robert d'un ton léger. Axel calme sa respiration avant de suivre son frère dans la maison pour rejoindre le jardin situé à l'arrière. La table a été installée sur la terrasse en marbre à l'ombre du grand arbre. Il s'apprête à rejoindre Annette lorsque Robert lui agrippe le bras pour le retenir.
« On s'amusait bien quand on était petit, »
dit Robert avec un regard sérieux.
« Pourquoi on ne se parle plus ? Comment en est-on arrivé là ?»
Étonné, Axel observe le visage de son frère, les rides au coin de ses yeux, ses cheveux ébouriffés autour de sa calvitie.
« Il se passe des choses dans la vie qui... »«
Attends, je ne voulais pas te dire ça au téléphone, » l'interrompt Robert.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Beverly m'a dit que tu pensais que c'était ta faute si Greta avait mis fin à ses jours. Mais je ne veux pas en parler, » le coupe aussitôt Axel.
« Il le faut. J'étais là lors du concours. J'ai tout entendu. J'ai entendu Greta parler avec son père. Elle était en larmes. Elle s'était trompée et son père était terriblement énervé. »
Axel se libère de la main de son frère.
« Je sais déjà tout ce qui... »«
Laisse-moi dire ce que j'ai à dire, » insiste Robert. « Vas-y. »
« Axel, si seulement tu avais dit quelque chose, si seulement j'avais su que tu pensais que la mort de Greta était ta faute. J'ai entendu son père. C'était sa faute. C'était uniquement sa faute. Ils ont eu une dispute terrible. Je l'entendais dire des choses horribles, qu'elle lui faisait honte, qu'elle n'était plus sa fille. Elle devait quitter la maison, quitter l'école et s'installer chez sa mère Camée à Mora.
Il a dit ça?
Je n'oublierai jamais la voix de Greta, poursuit Robert les dents serrées. La peur dans sa voix lorsqu'elle essayait d'expliquer à son père que tout le monde peut se tromper, qu'elle avait fait de son mieux, que ce n'était pas grave, qu'il y aurait d'autres concours.
Mais j'ai toujours... Axel regarde autour de lui, perdu. Toutes ses forces semblent le quitter. Il s'affaisse lentement sur le sol en marbre et cache son visage dans ses mains.
Elle pleurait et disait à son père qu'elle allait se suicider si on ne la laissait pas continuer la musique.
« Je ne sais pas quoi dire, » chuchote Axel.
« Dis merci à Beverly. »
Beverly Anderson. Une pluie légère commence à tomber lorsque Beverly arrive sur le quai de la gare centrale de Stockholm. Le train qui l'amène vers le sud traverse un paysage estival qui se déploie sous une légère brume. Lorsqu'elle atteint Hässleholm, le ciel se découvre enfin. Après avoir changé de train à Lund et pris le bus depuis Landskrona, elle arrive à Svalöv. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas rentrée. Le docteur Saxeus lui avait promis que tout se passerait bien. « J'ai parlé avec ton père, » disait le médecin. « Il est sérieux. » Beverly traverse une place poussiéreuse et se rappelle qu'il avait vomi là 2 ans plus tôt. Quelques garçons lui avaient fait boire un alcool de contrebande. Ils avaient pris des photos d'elle avant de la déposer sur la place. C'était à la suite de cet incident que son père n'avait plus voulu d'elle à la maison. Elle continue d'avancer. Son ventre se noue lorsqu'elle aperçoit la grande route qui mène à la ferme 3 kilomètres plus loin. C'était le long de cette route que les voitures la ramassaient autrefois. Désormais, elle ne se souvient plus pourquoi elle désirait tant les suivre. Elle pensait voir quelque chose dans leurs yeux, comme une lueur. Beverly change son lourd sac de main. Au loin, une voiture avance dans la poussière. Ne lui est-elle pas familière? Beverly sourit et fait signe de la main. Papa arrive. Papa arrive.
Pénélope Fernandez. L'église Roslaxcula est une petite église en bois rouge verni avec un clocher magnifique. Elle est située en pleine campagne, non loin du village de Virabruck, légèrement à l'écart des routes de la commune de Storocker. Le ciel est bleu et l'air est pur. Le vent emporte dans son souffle l'odeur des fleurs sauvages. Björn Almskog a été enterré la veille au cimetière Nora. Et 4 hommes en costume noir portent désormais Viola Maria Liselotte Fernandez jusqu'à sa dernière demeure. Pénélope Fernandez et sa mère Claudia suivent le cercueil avec le prêtre, 2 oncles et 2 cousines venues du Salvador. Ils s'arrêtent près de la tombe ouverte. Une cousine, une petite fille qui doit avoir dans les 9 ans, pose un regard interrogateur sur son père. Lorsqu'il hoche la tête vers elle, elle sort sa flûte à bec et commence à jouer le psaume 97, tandis que le cercueil descend lentement dans la terre. Pénélope Fernandez tient la main de sa mère et le prêtre lit un passage de l'Apocalypse de Jean. « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Claudia regarde Pénélope, remet son col droit et lui caresse la joue comme à un enfant. Lorsqu'il regagne les voitures, un téléphone vibre dans le petit sac noir de Pénélope. C'est Yonalina. Pénélope se libère délicatement de la main de sa mère et se met à l'ombre sous l'un des grands arbres du cimetière.
« Salut Pénélope !»
dit Yona de sa voix chantante et sérieuse à la fois.
« Salut Yona !» « Je pensais que vous aimeriez savoir que Raphaël Guidi est mort. »« Et les munitions pour le Darfour ?»«
Nous avons arrêté le navire. »«
Bien. »
Pénélope laisse son regard errer sur sa famille, ses amis, sa mère qui est restée là où elle l'a laissée, sa mère qui ne la quitte pas des yeux.
« Merci, » dit-elle.
Elle retourne auprès de sa mère qui l'attend avec un visage inquiet. Pénélope lui reprend la main et se dirige vers les personnes qui attendent près des voitures.
« Pénélope. »
Elle s'arrête et se retourne. Elle pensait avoir entendu la voix de sa sœur. Un frisson parcourt sa nuque et une ombre passe lentement sur l'herbe verte. La petite fille qui jouait de la flûte la regarde entre les pierres tombales. Elle a perdu son ruban et ses cheveux flottent dans la brise estivale. Saga Bauer et Anya Larsson. Les jours d'été n'en finissent pas. La nuit brille comme de la nacre jusqu'à l'aube. C'est la fête du personnel des unités regroupées au sein de la Rikspolisstyrelsen, dans le jardin baroque devant le château de Drottningholm. Yonalina est installée avec ses collègues à une table sous un grand arbre. Sur la piste de danse en bois rouge de Falun, les musiciens vêtus de costumes blancs jouent Orgaloten. Peter Neslund danse une slang polska avec Fatima Zanjani qui est originaire d'Irak. Il lui dit quelque chose avec un sourire au coin des lèvres. Ça a l'air de la rendre heureuse. La chanson raconte l'histoire du diable qui jouait si bien du violon que les jeunes ne voulaient jamais arrêter de danser. Lorsqu'ils commirent l'erreur de ne pas respecter le repos dominical sonné par la cloche, ils furent condamnés à danser à jamais. Ils pleuraient de fatigue. Leurs chaussures s'usaient jusqu'à la corde, leurs pieds s'usaient jusqu'à la moelle, et il ne resta bientôt plus que leur tête qui sautillait à la musique du violon. Assise sur une chaise, Anya est vêtue d'une robe d'été à fleurs bleues. Elle fusille du regard les couples qui dansent sur la piste. Son visage maussade trahit sa déception. Mais lorsqu'elle voit Yona se lever, elle sent ses joues s'enflammer. Saga Bauer danse sur la pelouse entre les arbres. Elle chasse des bulles de savon avec les jumeaux de Magdalena Ronander. Ses blonds cheveux tressés de rubans de couleur brillent au soleil. Deux femmes d'âge mûr se sont arrêtées et l'observent avec un regard étonné.
« Mesdames et messieurs, » dit le chanteur après les applaudissements, « nous avons reçu une demande particulière. »
Carlos Eliasson sourit et lorgne quelqu'un derrière la scène.
« Je suis originaire d'Oulu, » poursuit le chanteur avec un sourire. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous chanter un tango qui s'appelle « Satuma ».
Magdalena Ronander porte une couronne de fleurs dans les cheveux et s'approche de Yona en cherchant son regard. Anya fixe ses nouvelles chaussures. L'orchestre commence à jouer le tango langoureux. Yona se tourne vers Anya, s'incline légèrement et demande à voix basse « Je peux ?» Le front, les joues et le cou d'Anya deviennent écarlates. Elle croise son regard et hoche la tête d'un air solennel.
« Oui, » dit-elle. « Oui, tu peux. »
Elle prend son bras, jette un regard fier à Magdalena et se dirige vers la piste avec Yona, la tête haute. Anya danse avec concentration. Une fine ride s'est creusée sur son front. Mais rapidement, son visage rond exprime son calme et sa joie. Ses cheveux laqués sont réunis en un complexe chignon sur sa nuque. Elle se laisse guider par Yona. Lorsque la chanson touche à sa fin, Yona sent soudain qu'Anya lui mord doucement l'épaule. Elle mord de nouveau, un peu plus fort, et il se sent obligé de lui demander
Qu'est-ce que tu fais ?
Ses yeux brillent.
Je ne sais pas, répond-elle honnêtement. Je voulais juste voir ce qui se passerait. On ne sait jamais avant d'essayer.
Au même moment, la musique s'arrête. Il la lâche délicatement et la remercie pour la danse. Avant qu'il n'ait le temps de la raccompagner à sa place, Carlos s'avance majestueusement et invite Anya à danser. Yona reste un moment au bord de la piste pour regarder ses collègues qui dansent, mangent et boivent. Puis il se met à marcher en direction de sa voiture. Des personnes habillées en blanc sont assises sur des couvertures de pique-nique ou flânent entre les arbres. Yona rejoint sa place de parking et ouvre la portière de sa Volvo. Un énorme bouquet de fleurs est posé sur la banquette arrière. Il s'installe dans sa voiture et appelle Disa. Sa messagerie se déclenche à la quatrième sonnerie. Disa Elenius. Disa est assise devant son ordinateur dans son appartement près de Carla Plane. Elle porte ses lunettes et une couverture drape ses épaules. Son portable est posé sur son bureau à côté d'une tasse de café froid et d'un petit pain à la cannelle. Elle observe une photo représentant un tas de pierres entourées de hautes herbes. Ce sont les ruines du cimetière du choléra dans le quartier Skanstull à Stockholm. Elle annote le document sur son ordinateur, s'étire et amène la tasse à sa bouche puis se ravise. Elle se lève pour faire un nouveau café lorsque le téléphone vibre sur le bureau. Sans regarder de qui il s'agit, elle l'éteint et rejoint la fenêtre. Elle regarde un moment dehors. Des particules de poussière brillent à la lumière du soleil. Son cœur bat de plus en plus vite et elle s'installe de nouveau à son ordinateur. Elle ne compte plus jamais parler à Yonalina. Yonalina. Une ambiance de week-end règne sur Stockholm et la circulation est fluide lorsque Yona descend lentement Tegnérgatan. Il a cessé d'essayer d'appeler Disa. Elle a éteint son téléphone et il suppose qu'elle a envie d'être seule. Yona contourne l'immeuble Blåtornet et continue sur Drottninggatan, vers le tronçon de la rue où il y a de nombreux antiquaires et des magasins. Près de la librairie New Age Vatumanen, une vieille femme feint de regarder la vitrine. Lorsque Yona passe, elle fait un geste vers l'intérieur du magasin et commence ensuite à le suivre à distance. Il faut un moment à Yona pour remarquer qu'il est suivi. Ce n'est qu'en arrivant au niveau de la clôture noire de l'église Adolphe Frédéric qu'il se retourne. À 10 mètres de lui, une femme, qui doit avoir dans les 80 ans, le regarde d'un air grave et lui tend quelques cartes.
« Ça c'est vous, n'est-ce pas ? » dit-elle en lui montrant une des cartes. « Et voici la couronne de mariée. »
Yonalina prend la carte. C'est une carte de Killekek, l'un des plus anciens jeux de cartes d'Europe.
« Qu'est-ce que vous voulez ? » demande-t-il calmement. « Je ne veux rien, » dit la femme. « Mais j'ai un message de la part de Rosa Bergman. »«
Il doit y avoir erreur, car je ne connais personne qui... »«
Elle aimerait savoir pourquoi vous faites comme si votre fille était morte. »